Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Métropolez-vous pour ce nouveau numéro de votre émission consacrée à l'actualité de la métropole toulousaine. Comme vous le savez, si vous la suivez régulièrement, nous avons souvent eu l'occasion d'évoquer les grands projets d'urbanisme en cours sur le territoire métropolitain. Il y a quelques mois, nous avions fait le point, par exemple, sur l'avancement du chantier Grand Matabio Quédoc. Nous avions aussi parlé, il y a un peu plus longtemps, du projet de l'écoquartier de la Cartoucherie, au sein duquel un chantier très important était en cours, celui concernant les anciennes halles. Eh bien, ce chantier est arrivé à son terme et les halles de la Cartoucherie ont été inaugurées très récemment. Une inauguration qui a été suivie d'un grand week-end d'ouverture au public les 8, 9 et 10 septembre. Ce nouvel espace et même ces nouveaux espaces abritent de nombreuses activités dans divers domaines comme la gastronomie, le sport, la culture et même l'emploi. Voilà donc un lieu appelé à prendre toute sa place dans la vie de ce quartier et même dans la métropole toulousaine en général. Je vous propose de faire mieux connaissance avec lui tout au long de cette émission. Et pour faire mieux connaissance avec les halles de la Cartoucherie, je reçois une nouvelle fois à Métropolez-vous Annette Léniaud, vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de l'urbanisme et des projets urbains, également adjointe au maire de Toulouse. Bonjour madame et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Il faut qu'on rappelle ce qu'était le site de la Cartoucherie à l'origine, en précisant peut-être d'abord sa localisation dans Toulouse, parce que tout le monde ne sait pas forcément où il se trouve. Et puis ensuite, il faut qu'on rappelle son histoire, quand et pourquoi ce site avait été créé.
Alors pour le situer, il est à l'ouest de Toulouse, avant la rocade et au bout de l'avenue...
De Grande-Bretagne.
De Grande-Bretagne, je cherchais le nom. Donc un site qui est connu, mais ça date d'il y a très très longtemps, puisque c'est en 1802, donc au début du 19e siècle, oui, qu'il a été décidé qu'il y aurait une zone d'essai des canons et champs de manœuvre. Donc c'est vraiment très très ancien. Puis ensuite, c'est au moment plutôt de la guerre qu'il y a eu la création et l'installation d'un atelier de chargement de cartouches métalliques. Et en 1914-18, il y avait 15 000 salariés quand même sur ce site. On voit que c'était un site excessivement important où il y avait pas mal de femmes. La moitié de femmes, c'est intéressant. On les appelait les munitionnettes. Moi, je trouve ça très mignon.
Ah oui, c'est joli, effectivement.
Donc c'était un lieu où on fabriquait des munitions. Et c'est en 1916 qu'il y a eu la création des deux halles qui restent. Donc je les cite puisqu'elles demeurent. Donc c'est en 1916 qu'elles ont été construites. Et puis à partir de 1993, il y a eu un arrêt progressif de l'installation. Et en 2005, c'est une cessation définitive de toute activité industrielle sur ce site.
Donc, ce site était fermé au public en fait pendant un siècle.
Ah hein. Oui, il était fermé d'abord au public et ensuite avec une activité complètement arrêtée en 2005, comme je l'évoquais.
15 000 salariés à l'époque de la Première Guerre mondiale, 200 bâtiments.
200 bâtiments.
C'était une véritable ville, en fait.
C'était une ville, oui, c'était une ville, oui, absolument.
Le site a été récupéré par la collectivité. Il était dans quel état ?
D'abord, il était construit, donc c'était un site industriel, c'était une friche industrielle. Et rappelez-vous, c'était même un site très pollué. Hein. C'était le GIAT qui en était propriétaire, c'est-à-dire l'État qui était propriétaire de tout ce foncier et qui a été cédé à la collectivité en 2000, je crois, définitivement, enfin dans les années 2006, quelque chose comme ça, et après. Et ensuite, il y a eu toute une procédure d'abord de dépollution qui a été complexe et puis toute la procédure de mise en œuvre d'un projet d'aménagement, donc d'un engagement de la collectivité pour réhabiliter ce site. Donc c'est de la rénovation de friches industrielles avant l'heure, puisque vous savez que maintenant c'est un sujet des plus importants suite à la loi climat et résilience. Ben, en avance de phase, si je peux dire, la collectivité s'était engagée à créer un nouveau quartier, mais pas n'importe quel nouveau quartier, puisqu'il y avait une volonté de faire un quartier nouvelle génération, si je peux dire, où la priorité aux problèmes d'environnement, priorité à l'animation de ces quartiers, priorité à créer des cœurs de quartiers vivants. Et puis, autre priorité à donner une âme à ces opérations. Détruire un quartier, une friche industrielle et reconstruire dessus, c'est sans doute intéressant. Ça l'est et ça l'est toujours. Mais donner une âme à ce quartier, une mémoire, il fallait conserver la mémoire de ce quartier. D'où la volonté de la collectivité de conserver deux halles, les halles que j'ai citées, qui avaient été construites en 1916, de conserver ces deux halles qui traduisent l'histoire, toute la mémoire du quartier. Et c'était important parce que il y a toujours d'anciens de la cartoucherie, une association d'anciens de la cartoucherie qui vivent pas très loin d'ailleurs de ce site et qui sont très attachés à la mémoire de ce site et qui sont fort heureux que ces halles aient été réhabilitées. Et nous les avons croisés à plusieurs reprises tout en dans le phasage du projet. Donc un quartier vivant, un quartier animé, un quartier où les habitants auront à disposition toutes les aménités, un quartier mixte avec une mixité fonctionnelle. Il y a des écoles, une école de santé et autres d'ailleurs. Il y a des activités tertiaires, il y a des bureaux, mais il y a aussi du logement social. Donc une mixité sous toutes ses formes. Et c'est ça les nouveaux quartiers que nous souhaitons créer, vivants, mais également avec une âme.
Alors, on va rentrer dans le détail un peu plus tard dans cette émission. Juste petit rappel, donc deux bâtiments ont été conservés sur les 200 existants sur le site. La grande halle de béton, elles étaient en béton, qui fait 250 mètres de long, et puis il y en a une plus petite. On va expliquer tout ça et préciser les choses tout à l'heure. Mais merci infiniment pour tous ces rappels et ces informations. C'était nécessaire pour bien comprendre comment est né ce projet d'urbanisme et cet éco-quartier, parce que c'est le terme qu'il faut employer. Il est maintenant l'heure de notre rendez-vous avec l'actualité métropolitaine et donc avec Corinne Saint-Félix qui nous a préparé son petit flash d'informations hebdomadaire comme d'habitude. Métropolez-vous, l'actu. Pour ouvrir ce flash, une information qui concerne le patrimoine religieux, une rénovation de grande ampleur a commencé à l'église Notre-Dame du Thor.
Oui, et c'est un véritable travail de sauvegarde qui s'organise pour traiter les nombreux problèmes qui affectent l'édifice. Le programme de travaux donne une idée de l'ampleur du chantier qui s'ouvre. Réparation de la charpente, traitement des remontées d'humidité et des infiltrations d'eau, sécurisation et préservation de la chapelle haute, mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mise en conformité avec les normes de sécurité incendie et mise en œuvre des préconisations issues de l'étude Grand Vaisseau, mise en place d'un éclairage fonctionnel et de mise en valeur. Ces interventions sur le bâti s'articulent avec une restauration intérieure complète, chapelle, nef et chœur. Ces travaux permettront ainsi de retrouver toute la structure originelle de l'église et de révéler la qualité architecturale du lieu, la richesse de ses décors et celle de ses œuvres, les peintures murales et fresques, mobilier, sculptures ou encore tableaux.
La classe d'âge qu'on appelle les seniors prend de plus en plus de place dans notre société et 3 jours lui sont dédiés cette semaine à Toulouse.
De nombreuses animations, spectacles et ateliers entièrement gratuits ont lieu place du Capitole et partout dans la ville de Toulouse du 20 au 23 septembre. Seniors et plus, c'est ce rendez-vous annuel pour tous les Toulousains qui souhaitent s'informer pour pratiquer tout type d'activité physique, culturelle, récréative, mais aussi se familiariser avec le numérique ou bénéficier de conseils pour rester actif et en bonne santé. Cette année, Seniors et plus, Coupe du Monde de rugby oblige, vous invite à jouer sur tous les terrains et pas seulement ceux dédiés au sport. Jouer du regard, avec les mots, la mémoire ou encore les papilles. Au programme, des ateliers en groupe, des cours sportifs, de la danse ainsi que des stands d'information sur les questions de santé, des conseils pratiques pour préserver son autonomie, rejoindre une association et bien d'autres propositions encore.
Et puis pour finir, un rendez-vous qui attire un public de plus en plus nombreux chaque année, la Semaine européenne de la mobilité a lieu ces jours-ci.
Du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de la mobilité invite les habitants de la métropole à adopter une démarche éco-citoyenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière. Transport public, covoiturage, autopartage, vélo, la marche à pied. Thème de cette 22e édition, les économies d'énergie. Au programme, sur les différents stands en ville, distribution des cartes des itinéraires cyclables et des balades nature, information sur les concertations mises en place dans le cadre du réseau express vélo et des prochaines étapes, ou encore des informations sur le code de la rue et sur les pédibus.
Merci à Corinne Saint-Félix qui nous présentait l'actualité métropolitaine et Annette Lignon. Je vais vous demander une réaction à la première des informations de ce flash. La rénovation qui est en cours à l'église Notre-Dame du Thor, ça c'est un point, la rénovation du patrimoine et du patrimoine religieux en particulier, auquel tient beaucoup Jean-Luc Moudenc, le président de Toulouse Métropole.
Ah oui, c'est tout à fait le témoignage de toute l'activité que nous avons à l'initiative de Jean-Luc Moudenc développée en matière patrimoniale. Et rappelez-vous, c'est dès 2014 que Jean-Luc Moudenc a souhaité intégrer le patrimoine au cœur du projet urbain. Donc c'était une volonté forte avec la création d'un service dédié au patrimoine, alors que c'était un service qui était très dispersé. Il a souhaité réunir toute l'activité patrimoniale et c'est important parce que ça crée une dynamique. Et puis nous avons commencé déjà par faire un inventaire de nos biens, parce qu'il faut savoir que la mairie de Toulouse est propriétaire de près de 60 monuments historiques. C'est considérable, il y en a énormément sur Toulouse, mais 60 propriétés directement de la ville, donc ça engage. À partir de ce bilan, nous avons pu identifier quels étaient les monuments qui nécessitaient soit des travaux d'urgence, soit des travaux d'amélioration, soit des travaux de rénovation. Et donc, nous avons planifié la rénovation de tous ces biens. En matière de patrimoine historique, je citerai la basilique de la Dorade, qui était absolument exceptionnelle et qui a révélé à l'intérieur une basilique. Mais moi, j'en ai eu les frissons quand j'ai pénétré, parce qu'elle était plutôt noire, elle était plutôt sombre.
Oui.
Et cette rénovation a révélé un joyau. C'est le cas également de tout ce qui a été fait sur Saint-Cernin, où là également, on a mis en majesté cette basilique. Et puis ensuite, le Saint-Pierre des Chartreux, qui est en cours également. Mais la rénovation du patrimoine ne concerne pas que les monuments religieux, bien évidemment. Il y a énormément de monuments qui font l'objet aussi de rénovation. Mais pas que des monuments, il y a aussi du mobilier, ça a été évoqué, des tableaux, des peintures qui sont révélées par la rénovation. Et je peux annoncer, je peux même dire qu'à la fin du mandat, pour ce mandat aujourd'hui, c'est, je crois, un peu plus de 40 millions d'euros qui seront consacrés à la rénovation du patrimoine. Donc c'est une volonté de Jean-Luc Moudin vraiment d'associer patrimoine à tous les projets urbains, avec toute la complexité des projets sur une ville comme Toulouse.
Et on a pu encore prendre conscience de ça, s'il était besoin, lors des récentes journées du patrimoine à Toulouse. Merci pour ces commentaires et ces compléments d'information à l'actualité métropolitaine. Nous revenons maintenant au sujet de cette émission. L'inauguration des halles de la cartoucherie.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La seconde partie de Métropole et vous avec notre invitée du jour, Annette Léniaud, vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de l'urbanisme et des projets urbains, adjointe au maire de Toulouse. Une question que se posent sans doute nos auditeurs, quel est le budget qui a été engagé pour ce projet de rénovation des halles de la cartoucherie et par qui a-t-il été financé ?
Alors, le budget est important puisque je crois que c'est quelques 32 millions d'euros qui ont été consacrés à la réhabilitation de ces halles. Donc, dans ce budget, il y a la charge foncière, le contrat avec l'opérateur qui va le rénover puisque c'était une entreprise, un promoteur privé. Il y a des subventions qui ont été ajoutées. Donc, c'est un financement d'un opérateur privé, donc déjà, auquel s'est ajoutée la Caisse des dépôts, un certain nombre de financements bancaires qui ont accompagné ce financement, Action Logement, Toulouse Métropole, le Centre National de Musique. Enfin, il y a eu un tour de table assez riche pour arriver à financer cet ensemble qui est absolument remarquable.
Bien, puisque cet ensemble est remarquable, comme vous le soulignez, on peut saluer au passage les architectes qui ont conçu le projet et les cités, parce que ce sont deux femmes d'ailleurs.
Oui. C'est deux équipes d'architectes remarquables, une de Bordeaux, l'autre toulousaine. Alors Bordeaux, c'est la compagnie Architecture, avec Chloé Baudard. Et sur Toulouse, c'est l'agence OECO que nous commençons à connaître maintenant de plus en plus, puisque ce sont de jeunes architectes, de jeunes femmes. Et c'est Vanessa Larère qui s'est occupée de ce projet. Alors, c'est un projet qui respecte la tradition de la halle, l'esprit de la halle, l'ambiance de la halle, la volumétrie de la halle, tout ce qui constitue ce volume remarquable, mais également avec un soupçon de modernité, de manière à faire de cette halle un élément de l'époque, un contemporain. Donc c'est un mariage de contemporain et de préservation d'un patrimoine. Et surtout, il y a eu beaucoup d'innovations dans la construction, puisqu'il y a réutilisation de matériaux biosourcés. Il y a vraiment une recherche d'économie d'énergie, d'utilisation de matériaux, de récupération de matériaux. Donc il y a une volonté en même temps d'inscrire ce projet dans la modernité de la construction que l'on attend maintenant.
Et puis dans les enjeux aujourd'hui notamment environnementaux.
Et dans les enjeux surtout environnementaux, bien évidemment.
Bien sûr. Il s'agissait aussi d'ouvrir ce site puisqu'il avait été fermé longtemps au public, vers la ville et vers le quartier qui l'entoure.
Ah, c'est tout à fait un projet qui a comme objectif
l'animation. Ça doit être un lieu de vie,
C'est un lieu de vie et c'est même pour la cartoucherie, enfin pour Toulouse, un lieu de destination. C'est assez unique, c'est un lieu où il y aura à la fois d'activités gastronomiques, si je peux dire, puisqu'il y aura énormément de restaurants de rue, des restaurants très complémentaires les uns des autres, mais il y aura également de l'activité sportive, il y aura un pôle sportif, on pourra faire du squash, de l'escalade, puisqu'il y a un mur d'escalade, donc de l'activité sportive, de l'activité gastronomique, et puis un pôle culturel qui sera important également, et travailler, puisqu'il y a un espace de coworking. Donc on le voit, il y a une mixité d'usage dans cette halle qui est assez intéressant. Et au cœur de la halle, il y a un espace végétalisé, c'est une sorte de serre qui fait la coupure entre le côté gastronomique et le côté plutôt sportif. Et cette serre est un lieu assez magique au cœur de cette halle, sans casser le volume. Donc, sur le plan de l'architecture, c'est intéressant.
Oui, parce qu'il y a la partie restauration, d'après ce que j'ai compris, qui a été inspirée, alors je ne connais pas ce lieu personnellement, du Mercado de Ribeira, le marché couvert de Lisbonne.
Oui, parce que moi je ne connais pas le marché de Lisbonne, donc je suis allée à Lisbonne, mais le marché n'était pas en activité. Mais oui, alors c'est une tendance, j'ai eu la chance d'aller dans d'autres lieux ailleurs qu'en France, qui se font maintenant, mais ce sont des lieux qui sont excessivement vivants. Et le soir de l'inauguration, le jour de l'inauguration, il y avait un monde fou, comme il y en aura probablement tout le temps, parce que c'est vraiment un endroit de rencontre, de partage.
C'est-à-dire qu'on peut y venir passer quasiment la journée, y faire son marché, se restaurer, boire un verre. Il y a 26 commerçants, je crois, qui vont s'installer vraiment sur place, plus des restaurateurs. Vous parlez de coworking. Mais il y a vraiment beaucoup de postes de travail, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir venir travailler ici. Je crois qu'il y en a plus de 150.
Hein. Ah oui, donc il y aura beaucoup de gens pour y aller parce que certains ont besoin avec une heure disponible pour travailler,
se connecter
et puis repartir. Il y a un brassage, il y a 150 postes de travail.
Il y a même des salles de réunion, c'est-à-dire qu'on peut, je sais pas, une association peut venir.
Oui, tout à fait.
Ces salles, c'est des salles qui sont allouées. Comment ça fonctionne en fait?
C'est alloué, oui, c'est alloué. Alors je ne sais pas.
Il y a forcément un agenda. Enfin,
j'ai pas le modèle.
Probablement. Pour faire une réunion. Mais...
je pense qu'on doit pouvoir réserver ou venir à l'improviste demander s'il y a une salle disponible ou un poste disponible de manière à pouvoir s'installer. Mais bon, c'est une gestion.
Donc, alors, vous parliez de l'aspect sportif, il y a même une salle d'escalade.
Il y a une salle d'escalade.
On pourra faire de l'escalade,
donc
des salles de sport, et on pourra faire aussi de la breakdance, du fitness, ce qui se fait beaucoup dans les grandes villes. Il y a une école de cuisine, j'ai vu ça.
Également, une école de cuisine.
Et puis alors, il y a un volet culturel, alors ça c'est très intéressant, parce qu'il y a une librairie qui s'installe sur place, je pense que les gens qui fréquentent les librairies connaissent ce nom, L'Autre Rive, donc qui ouvre une boutique sur place, et puis il y aura des animations culturelles, et il y a une salle de spectacle qui doit... ouvrir, alors je ne sais pas à quel horizon, fin d'année prochaine.
Elle devrait ouvrir au printemps 2024.
Oui, c'est
une salle de spectacle. Alors pour le coup, c'est une construction nouvelle qui est à proximité à l'arrière de la halle et qui sera ouverte en 2024 et qui a une jauge qu'il n'y a pas sur Toulouse de 500 places.
Oui, c'est vrai qu'on
assises,
manque de salles
et 500, 800 debout, 800 places assis debout, donc 500 places assises, 300 debout, donc c'est une jauge, une petite jauge qui est pertinente sur le territoire de Toulouse et qui va donc ouvrir en 2024.
Dont la programmation a été confiée à Bleu Citron.
C'est Bleu Citron, voilà, c'est ça.
Et puis, il y a la petite halle. Alors ça, qu'est-ce que ça va devenir? Parce qu'on a parlé de la grande, mais la petite. Elle est appelée à être utilisée pour quel genre d'activité?
Alors, ce sera un futur cinéma. Donc, sur le territoire de la cartoucherie, il y aura donc un cinéma de 4 salles avec à peu près 400 sièges, un petit peu moins de 400 sièges, avec une ouverture prévisionnelle en 2025. Et c'est VO Cinéma qui a été sélectionné.
Oui, qui a des salles à Colomiers, si je ne me trompe pas,
Muret. Voilà. Alors, et qui vient d'ouvrir récemment à Colomiers, effectivement.
Les visiteurs que vous attendez, vous avez fait des projections. Le succès de la journée d'ouverture, du week-end d'ouverture, laisse à penser que beaucoup de gens devraient affluer dans ce lieu. Est-ce que vous avez envisagé le nombre de personnes qui pourraient transiter par
Pour le week-end d'ouverture, nous avons les halles de la cartoucherie ont accueilli près de 100 000 personnes sur 3 jours. Donc c'est dire...
Un grand succès public.
L'engouement et l'attente et la curiosité peut-être aussi un peu. Qu'est-ce qui se passe à la cartoucherie ? On parle tellement des Halles que... Mais on imagine que par an, on pourrait avoir 1 million de personnes qui passent par la cartoucherie. Oui.
Est-ce qu'il est prévu aussi qu'il y ait un point d'accès, troisième ligne de métro, pour desservir la cartoucherie ?
Alors, la cartoucherie est desservie par le...
Par le tramway.
Par le tramway. Donc c'est déjà... Alors, je crois que c'est un peu prématuré d'imaginer une extension, une ligne de métro. Non, actuellement, c'est au cœur de la ville, quasiment. Hein, donc, avec le tramway, donc c'est déjà desservi. D'abord, ça draine le quartier. Le quartier lui-même n'a pas besoin de... Mais bon, le tramway, c'est déjà un transport en commun important. Le vélo se développe, donc c'est une façon aussi de rejoindre ce quartier. Et puis, c'est vrai que certains y vont en voiture. Il y a 4 parkings mutualisés sur le site de la cartoucherie, ce qui est quand même
Qui permet
intéressant. Bon, je ne veux pas trop insister là-dessus, parce que ce n'est pas souhaitable que tout le monde aille à la cartoucherie en voiture, on le sait bien. Mais bon,
Transports en commun tels qu'ils sont aujourd'hui permettent de s'y rendre sans utiliser sa voiture. Et puis il y a le Zénith aussi qui est à côté, n'oublions pas. Donc on parlait de l'aspect culturel, ça va devenir un gros pôle de propositions culturelles dans la métropole. Il reste une troisième tranche au projet urbanistique site de la cartoucherie. Alors c'est quoi les prochaines échéances maintenant?
Cela fait déjà un moment que nous travaillons sur cette troisième tranche, puisqu'il y a un concours avec un dialogue compétitif, si vous voulez, avec les 4 groupements de promoteurs. La troisième tranche, c'est quand même quelques 900 logements. Hein. Donc c'est un projet qui est énorme. C'est la dernière partie de la cartoucherie. Et nous avons souhaité, faire travailler 4 équipes de promoteurs. Alors promoteurs avec un S, puisque pour cette jauge-là, il faut des groupements de promoteurs que nous avons identifiés avec des urbanistes et avec lesquels nous travaillons sur un projet. Et la particularité de ce projet, de cette troisième tranche, c'est que nous travaillons avec les habitants du quartier également. Donc il y a eu une concertation pour leur demander quelles étaient leurs attentes, comment ils imaginaient une troisième partie, qu'est-ce qui était important pour eux sur cette troisième tranche. Et nous avons intégré ces demandes dans le cahier des charges que nous avons transmis aux différents opérateurs que nous avions sélectionnés. La particularité de cette troisième tranche, c'est qu'il y aura un parc d'1,5 hectare, ce qui est énorme. Donc un grand parc au cœur de la cartoucherie et un équipement mutualisé qui est en cours de définition. Et puis, donc, c'est un petit peu moins de 900 logements, malgré tout, mais avec un parking mutualisé également, qui sera mutualisé. Une opération sur laquelle les promoteurs sont en train de plancher, puisque nous avons fini la procédure de dialogue avec eux, et ils sont en train de présenter un projet que je n'ai pas vu, mais qu'ils vont déposer prochainement, ou qu'ils ont déposé ces jours-ci, et sur lesquels nous allons avoir à nous positionner et trancher et choisir.
Et sélectionner. Ce qui veut dire qu'après les échéances, ça serait d'ici la fin du mandat en cours ou ça va aller au-delà ?
Ah non, la construction, non. Nous aurons sélectionné, nous aurons un projet, nous travaillerons sur ces projets que nous partagerons bien sûr avec l'ensemble des riverains, mais il n'y aura pas de construction qui sortiront d'ici la fin du mandat.
Mais
par contre, les projets seront mieux définis. Nous aurons une image, si vous voulez, ou une vision de ce que deviendra le quartier à terme. Alors, je précise que cette troisième tranche est excessivement vertueuse, parce que quand on regarde ce qui se passe sur ce site actuellement, on se rend bien compte que c'est imperméabilisé. Il y a une croûte bétonnée dessus. Donc, c'est une rénovation. Ça ne peut qu'améliorer la fin de l'opération, voilà, avec ce grand parc qui sera en bordure de l'avenue de Grande-Bretagne pour être au cœur de la cartoucherie, mais au cœur de l'ensemble du quartier.
Et c'est sans doute un espace qui manquait dans cette zone de la ville. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Annette Legnaud, d'être venue nous présenter les halles, les nouvelles halles de la cartoucherie et tout ce que propose désormais ce lieu de vie et de rencontre tout nouveau aux Toulousains et à tous les citoyens de la métropole toulousaine. Il y a un site pour se renseigner et avoir encore plus de détails, www.halles-cartoucherie.fr. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.